Bien, on va reprendre en assemblée plénière. Vous avez dû voir beaucoup de choses dans les ateliers. On va procéder à un petit retour de chaque atelier de 10 minutes. Auparavant, on voudrait vous indiquer quelques ressources. On ne va pas pouvoir être exhaustif, mais quand même. Il a été question dans plusieurs des ateliers d'applications pédagogiques. Je pense notamment à Claudia Renaud qui a présenté Ville Interactive. Lorsque vous allez sur le site, vous avez des comptes rendus de chaque atelier et vous avez également les adresses des sites. Sur le site de l'INRP que montre Eric, sur le site Praxis qui va devenir le site Eductis, on va changer d'adresse mais peu importe, ça restera toujours l'observatoire de pratiques géomatiques, il vous est possible également de télécharger Géonote. Géonote qui a été développé avec l'INRP et expérimenté par des élèves et qui était en téléchargement gratuit. Donc vous allez sur le site de l'INRP et vous téléchargez le logiciel Géonote. La société ESRI qui est présente aujourd'hui peut distribuer des atlas. Alors apparemment il n'y en a pas suffisamment pour tout le monde, mais si vous laissez votre adresse avant de partir, on peut vous envoyer un atlas de données. Il y a également certains qui ont vu GeoWeb Explorer, donc une plateforme hébergée par l'Université de Saint-Étienne que nous utilisons avec des enseignants de l'Académie de Lyon. Vous pouvez également, sur le site de l'INRP, trouver l'adresse, vous inscrire. Il faut un mot de passe parce qu'il y a des données qui sont protégées, c'est normal. Donc, vous demandez un mot de passe sur la plateforme. Je vous redonnerai l'adresse si vous le voulez, si vous le souhaitez, vous m'envoyez un mail. Et à ce moment-là, vous pouvez tester vous-même avant de voir si ça vous intéresse de l'utiliser en classe avec vos élèves. Donc, un certain nombre de ressources, on ne peut pas tout donner, mais bon, il y a des choses en ligne et on mettra au maximum les comptes rendus des intervenants qui voudront bien nous faire passer donc leur PowerPoint. Voilà, on va procéder au retour d'atelier et puis ensuite on procédera à un échange avec la salle de vos questions, vos remarques et le bilan et perspectives pour la suite, les prochaines journées géomatiques. Voilà. Alors atelier numéro 1, vas-y Eric.
On avait demandé à Guy Ménant donc d'animer cet atelier. Bon, pour l'instant, il est retenu avec le directeur de l'INRP. Je pense qu'il va arriver dans 5-10 minutes. Bon, on va essayer quand même d'avancer sur les ateliers. Alors, pour le premier atelier, moi, j'ai essayé de représenter les choses de cette manière pour essayer de faire une synthèse sur ce qui a été dit. Alors, Dans les cinq présentations que j'ai pu entendre, il y avait toujours très présent en toile de fond un contexte, un réel qui était là. Alors c'était des réels qui étaient forcément différents suivant les intervenants et suivant les disciplines. C'était par exemple le cyclone Katrina, c'était par exemple des villes, c'était par exemple en géologie l'AFAR pour Djibouti et le Rift. C'était également la sédimentation de marge pour François Cordelier. Et puis j'ai oublié quelque chose. Il y a également les éoliennes avec notre collègue Mériot. Donc le réel, parce que nos disciplines, effectivement, sont les disciplines qui travaillent sur le réel. Alors c'est un réel plus ou moins physique, plus ou moins humain, suivant les disciplines, mais en tout cas, on est à peu près d'accord sur l'idée qu'on est ancré sur ce réel. Ce qui nous distingue, par exemple, de nos collègues mathématiciens. Alors quels sont les apports de la géomatique par rapport à ce réel? J'ai essayé de le représenter de cette manière-là. En fait, la géomatique va permettre de modéliser les choses. Hein, on l'a bien vu à travers les différents ateliers. On avait des modèles géologiques de situations géologiques, des modèles géographiques de situations géographiques. Et le SIG va permettre cette modélisation, cette confrontation d'informations qui proviennent du modèle. Et puis d'abord un tri et ensuite une confrontation. Ce qui va permettre à l'élève, effectivement, de comprendre. Ce qui va lui permettre à l'enseignant d'expliquer et ce qui va permettre aux deux d'interpréter les informations qui sont à leur disposition. Donc j'ai vu ça à travers les différentes présentations qui ont été faites, avec des approches différentes, mais il y avait ça. Et puis dans certaines présentations, il y avait une autre dimension, vous voyez, c'est chez les géographes, mais je pense que c'est possible également en géologie, c'est qu'il y avait la dimension, on modélise, mais pourquoi faire? À quoi ça sert cette modélisation? Et il y avait par exemple, à travers la présentation sur Katrina ou sur le Cap d'Agde, la possibilité de modéliser pour prévoir, pour aménager le territoire. Ça m'a paru intéressant parce qu'on a également cette dimension, nous géologues, et que les SIG permettent. Alors après, les choses effectivement sont diverses, mais si j'essaie de faire la synthèse, Alors, et en regardant la place de la géomatique dans les séances qui sont décrites, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que la géomatique, à chaque fois, elle était là pour placer les élèves en investigation, en travail d'investigation. Et ça m'a paru très, très intéressant, où on voyait soit des élèves qui faisaient du recueil de données, de la modélisation, je viens de le dire, parfois de la simulation, et tout ça de manière autonome. C'est-à-dire que l'idée, c'était de donner la possibilité aux élèves de travailler sur des objets complexes, sur des situations complexes. On a entendu également la situation des termes comme étude de cas, également situation problème. Bon, on se retrouve, je pense, de ce point de vue-là, où on travaille avec ces outils pour aborder la complexité et donner la possibilité aux élèves de le faire. Alors évidemment, aborder la complexité, mais bon, les situations étant complexes, on aimerait que les outils soient simples. Et les outils qui nous ont été montrés, s'ils sont variés, ne sont pas forcément extrêmement simples, ni à prendre en main, ni à mettre dans les mains des élèves. Donc il y a la dimension de visualisation donc qui apparaissait systématiquement dans les présentations, et ça on voyait bien que les choses, on pouvait mieux les visualiser, on visualisait mieux le Rift que dans un manuel, on visualisait mieux les villes sur les outils qui nous ont été montrés. Et puis cette visualisation meilleure permettait de comprendre des relations particulières d'ordre spatial ou temporel. Bon, ce que j'ai retenu également dans ces ateliers, c'est le fait que on avait quelque chose qui ressortait, qui n'a jamais été dit, mais qui ressortait systématiquement, c'est qu'on enseignait avec les SIG et on n'enseignait pas les SIG dans les présentations. Et on voyait des enseignants donc, qui avaient des outils qu'ils avaient adoptés parce qu'ils les jugeaient performants par rapport à leur pratique, même s'ils nous ont tous dit qu'ils avaient eu des difficultés, mais des outils qui n'étaient pas enseignés en tant que tels. Alors, je ne sais pas si parmi les personnes qui ont assisté aux ateliers, certaines d'entre elles veulent apporter des compléments, ou si les intervenants eux-mêmes se sont sentis trahis par rapport à ma synthèse. Bon, je passe le micro à Sylvain pour l'atelier numéro 2.
Alors donc, on était deux modérateurs, Pierre Jouzin et moi. Donc Daniel Le Prado-Madol n'a pas pu rester avec nous, mais donc qui est IPR d'histoire-géographie dans l'académie. Donc nous avons deux IPR, on va dire, locaux avec nous. Normalement, par souci de parité, de mixité, on avait prévu de marier l'histoire-géographie et les SVT. Bon, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Mais c'est toujours difficile d'être objectif, d'être modérateur quand on a à distribuer le temps de parole, à couper au moment où ça dépasse, etc. Donc c'est toujours un peu frustrant. Il y a eu des retours tout à l'heure quand même, quelques collègues qui ont dit « on aurait bien aimé avoir un atelier histoire-géo et un atelier SVT ». Au moins, on n'aurait pas été entre nous, mais on aurait pu être plus davantage sur nos thématiques. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est frustrant, mais on a volontairement, avec Eric, panaché parce qu'on pensait que c'était plus intéressant de voir, y compris ce que faisaient d'autres disciplines, même si on est quelquefois loin du terrain. Alors, je vais laisser la parole à Pierre pour donner quelques impressions de l'atelier, de ce qu'il a vu. Et puis, derrière, moi, je rebondirai simplement pour éventuellement ajouter des petites choses. Voilà.
C'est pas affiché. Merci. Donc, en ce qui concerne l'atelier 2, il portait essentiellement sur les outils et leur application en situation de classe. C'est vrai qu'effectivement, au niveau de l'atelier 2, la parité a été parfaitement respectée, puisque au niveau des interventions, il y en a eu deux en histoire-géographie et deux en SVT en ce qui concerne les applications de classe. Et puis, en cinquième intervenant, il y avait le point de vue d'une entreprise privée, donc du domaine du privé, qui est Esri, qui nous a également brossé un tableau sur l'enseignement des par ou avec au SIG ou par les SIG au niveau européen. Alors, en ce qui concerne les ateliers, je vais commencer par les SVT. Globalement, on a entendu effectivement deux ateliers qui étaient centrés sur la classe de terrain, qui est une activité qui est inscrite dans les programmes, notamment en première S. Et on a vu également une utilisation de ce concept en terminale S. Il s'agissait donc, en ce qui concerne le premier, de l'utilisation de logiciels gratuits, hein, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Le premier portait sur l'utilisation de Google Earth en première S avec une sortie sur le terrain dans l'académie de Montpellier. Et puis l'autre, il s'agissait de l'utilisation d'un autre logiciel gratuit, mais qui cette fois-ci a été produit par l'INRP. Sylvain en disait deux mots tout à l'heure sur la possibilité de télécharger ce logiciel Géonaut, et où cette fois-ci on était plutôt situé en TS, et où ceci se passait. On n'a pas très bien compris d'abord parce que se superposaient la Roche de Solutré et le Briançonnais, mais ça c'était c'était tout à fait volontaire. Et où effectivement l'outil utilisé était véritablement au service de l'enseignement des sciences de la Terre, et où effectivement les ailettes étaient véritablement, c'était ce qui était très, très intéressant, je dirais, acteur de cette sortie sur le terrain, utilisait effectivement les données réelles et produisait effectivement des documents qui ensuite étaient exploités et permettaient de répondre à une question qui a été qui était globale et posée en amont. Donc il y avait un travail intéressant où notamment sur l'autonomie des élèves face à une question globale et auquel ils répondaient en associant effectivement les données de terrain et l'utilisation d'un outil. La deuxième discipline, donc l'histoire-géographie, avec deux ateliers centrés sur la production et l'exploitation de données géoréférencées. Alors, il y avait tout d'abord l'atelier qui nous a présenté un logiciel d'auteur qui est un professeur, c'est le logiciel WinZig, où des exemples ont été présentés et utilisés avec les élèves en classe sur New York et sur la Bourgogne. Et puis le deuxième, donc un logiciel qui est en production, d'après ce que j'ai compris, et qui sera sans doute disponible, je m'adresse à l'auteur, sans doute disponible prochainement gratuitement, d'après ce qu'on a entendu. Donc on est encore dans le domaine du logiciel gratuit. Et puis GeoWeb Explorer, que Sylvain également a présenté comme étant une ressource disponible, où là, effectivement, on est en train d'exploiter des données en ligne sur des données concernant la basse rivière de l'Ain. Hein, et là, donc, toute l'activité proposée consistait à exploiter en plusieurs modules successifs ces données géoréférencées sur la basse rivière de l'Ain. Et on s'est aperçu à ce moment-là qu'au niveau du déroulement de ces différents modules, dans ce qui nous a été présenté, il y avait clairement une convergence entre les approches des deux disciplines vis-à-vis de cette pratique de l'utilisation des SIG, notamment au niveau du dernier module, le module 3, où véritablement c'est la personne qui a expérimenté cette plateforme a été effectivement convaincue que la motivation des élèves venait lorsqu'ils étaient véritablement acteurs d'une question globale auquel ils étaient chargés de répondre. Et donc, ceci se passait par l'intermédiaire d'un jeu de rôle où on leur demandait de prendre la place d'un décideur politique communal ou régional, etc., pour accorder des permis de construire. Et là, véritablement, on a senti tout l'intérêt qu'avait cette démarche d'investigation dès lors que l'on avait une question relativement globale posée aux élèves et qu'ils avaient la possibilité de rechercher en autonomie les réponses à cette question. Et on s'est aperçu également, enfin la personne, suite à l'expérimentation, s'est aperçu également qu'il était plus favorable de replacer la sortie sur le terrain au centre de la démarche, hein, plutôt que de la mettre, comme ça a été le cas d'après ce que j'ai entendu, à la fin, hein, et où la relation entre le terrain et l'activité TICE qui a consisté à exploiter la base de données n'a pas été perçue totalement lorsque, effectivement, cette sortie s'est faite a posteriori par rapport à, par exemple, la sortie sur le terrain que nous ont présenté les deux ateliers qui portaient sur la géologie en SVT. Donc, pour conclure, il y a effectivement et à l'issue également de ce que l'on a entendu à propos de l'utilisation des SIG à l'échelle européenne, on avait cette présentation par la personne représentant la société ESRI a montré que l'on retrouvait d'abord au niveau européen la double optique d'enseigner l'outil ou d'enseigner par l'outil, hein, que ceci était marqué également à l'échelon européen. Et il y avait également, j'ai cru comprendre, une certaine opposition entre le nord et le sud dans l'Europe, entre les pays nordiques qui s'affichaient relativement avancés dans l'enseignement par ou au SIG, et les pays du sud, la France se situant entre les deux, où visiblement les pays méditerranéens étaient un petit peu moins avancés, d'après ce que j'ai entendu. Et donc, en France, on se situe, comme d'habitude, entre les deux. Et il y a des tas de choses qui se font dans tous les sens. Et il faut effectivement essayer de coordonner tout ceci. La dernière question donc, qui s'est posée dans cet atelier sur les outils, c'était effectivement, est-ce qu'on peut envisager de concevoir, à court ou à long terme, un outil à tout faire, hein, qui fasse aussi bien le simple que le complexe, effectivement, et puis qui soit utilisable en termes d'outils d'apprentissage des sciences de la Terre, de l'histoire et de la géographie. Bon, il semble que ce soit effectivement une impasse et qu'on n'aura jamais effectivement cet outil à tout faire et qu'il faut garder là une certaine diversité. Entre effectivement des outils simples qui, plus ou moins dédiés et gratuits, qui vont permettre effectivement d'atteindre une généralisation et de mettre à disposition effectivement des outils complexes pour les enseignants les plus en avant et moteurs, de manière à ce qu'ils continuent à effectivement expérimenter, à rechercher des activités intéressantes à réaliser avec leurs élèves. Donc, mais il y avait ce souhait de rechercher également à travers ces outils, donc où on retrouve un petit peu ces trois niveaux que l'on a évoqués ce matin, 1, 2, 3, hein, et de rechercher donc des convergences entre un outil qui recherche donc des convergences entre les disciplines qui sont représentées aujourd'hui. Convergences qui sont effectivement à trouver entre enseigner un enseignement à l'outil et puis un enseignement par l'outil, tout ça en préservant bien entendu les spécificités de chacune des deux disciplines. Donc voilà un petit peu l'impression que j'ai retirée de ces cinq ateliers. Je passe la parole à Sylvain.
Je crois que tu as dit l'essentiel, j'ai plus rien à dire. J'ai juste projeté la diapositive qui résume un petit peu, ça suffit. Juste un mot, simplement, peut-être, par rapport aux outils, outils professionnels, simples visualiseurs, applications pédagogiques développées par les enseignants eux-mêmes. Je crois qu'il faut respecter effectivement la diversité. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on voit très nettement, quels que soient les types de montage, on va dire, à chaque fois, le souci, hein, constant, au-delà des diversités, de concevoir une instrumentation avec les usagers. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout du côté, il y a 10-15 ans, où on était du côté de l'informatique dure, et puis de la pédagogie de l'autre, avec deux mondes qui s'ignoraient, ou du moins avaient du mal. Hein. On voit très bien qu'aujourd'hui, y compris des auteurs, des éditeurs, ont le souci de concevoir des outils avec l'expérimentation, même le retour des usagers. Je crois que c'est quelque chose qui a changé actuellement et qui est très nettement en train de réorienter les usages, les pratiques. Parce que l'usage, c'est quand même pas les pratiques. L'usage, on est quand même sur quelque chose qui est quand même... Jean-Marc, tout à l'heure, Bonnefoy, qui a développé un logiciel, dit « Moi, maintenant, j'ai fait mon logiciel, j'aimerais bien savoir quand même les élèves ce qu'ils vont faire. » Bon, donc il n'est pas fini son logiciel. Hein. Donc il y a bien quand même le retour des usagers qui apparemment est central. Hein. Je crois que c'est quelque chose qui arrive très fortement. Et puis le dernier point, effectivement, c'est quand même une différence entre SVT et histoire-géographie. On a une culture différente de rapport à l'espace, rapport au terrain, mais on a des points de convergence très forts parce que finalement on se retrouve à travers la démarche d'investigation, la situation problème, l'approche de la complexité. Donc on a des différences et des ressemblances. Rien d'extraordinaire. Donc, Philippe Briat va faire le petit compte-rendu de l'atelier numéro 3. À toi.
Bien. Disons que pour l'atelier numéro 3, on a eu des choses assez diverses, puisqu'on a eu une présentation d'une expérience qui a été menée au niveau des classes d'école primaire, des CM1, CM2, jusqu'au BTSA, BTS agricole. Donc, c'était assez intéressant, en passant aussi par le collège. On a eu tout d'abord la présentation un petit peu du contexte de mise en œuvre des SIG dans l'enseignement agricole et la présentation rapide, mais moi j'ai trouvé très intéressante, de ce système d'enseignement qui est assez différent de ce qu'on peut connaître dans les collèges et les lycées, à savoir que bon, il y a un contrôle continu en ce qui concerne l'évaluation, notamment de l'utilisation des SIG. Il y a aussi quelque chose peut-être plus tourné vers l'application directement pratique. La possibilité aussi de s'affranchir de certaines contraintes horaires que nous connaissons dans les lycées et collèges et qui ne sont pas toujours de nature à faciliter l'utilisation des outils géomatiques. Et puis après, cette présentation assez intéressante du système d'enseignement agricole, je dirais... on a eu un exemple de mise en œuvre par une classe de BTSA. Et là, j'ai trouvé que finalement, l'approche des géographes et peut-être l'approche aussi des SVT se rejoignaient, puisque finalement, ce qu'on a vu, à savoir une classe de BTSA qui allait s'intéresser à l'évolution de l'occupation de l'espace d'un point de vue agricole, ça pouvait aussi tout à fait rejoindre une analyse plus géographique des choses. Quoi. Concernant la mise en œuvre d'utilisation de la géomatique avec une classe de primaire, bon, quelque chose de intéressant aussi, qui sort peut-être de ce dont nous avons l'habitude de voir. C'est vrai que personnellement, je n'ai pas en tête les référentiels qui sont ceux de l'école primaire, donc je n'ai pas tellement été à même toujours d'appréhender la totalité des objectifs fixés par les enseignants. Mais enfin, c'était assez intéressant de voir à la fois... une sortie sur le terrain d'une classe de primaire, une réflexion sur l'espace avec Google Earth, l'utilisation d'outils comme des GPS pour faire des mesures de localisation, et puis après une réflexion et une production qui peut paraître peut-être élémentaire, mais finalement adaptée au niveau des élèves. Quoi. pour suivre, on a eu quelque chose ensuite sur l'utilisation au collège, dans une perspective à la fois d'analyse géographique et puis aussi d'éducation civique. Et c'est vrai que là, on a rejoint peut-être ce qui a été dit pour l'atelier numéro 2, à savoir que la collègue qui a présenté cela a placé ses élèves dans une posture de décideur ou d'acteur, en tout cas, dans le cadre d'un jeu de rôle. Et je crois que si j'ai bien compris... la perspective qui est celle de l'inspection générale en histoire-géographie, c'est pas du tout peut-être une mauvaise chose, d'une part parce que les élèves souvent se sentent peut-être plus impliqués par le jeu de rôle, mais aussi parce que une de nos tâches est de familiariser nos élèves avec ces outils qui tendent à se diffuser, ne serait-ce qu'en ligne. On trouve pas mal de sites, je ne sais pas, des sites par exemple, sites de l'INSEE, sites de certaines directions départementales de l'équipement, pour la Loire c'est déjà le cas, où on n'a pas encore des SIG, mais on a un certain nombre d'outils interactifs d'analyse de l'espace que les citoyens futurs que seront nos élèves auront peut-être à utiliser. Donc, En tout cas, pour revenir à ce jeu de rôle qui portait sur l'implantation ou pas d'un anneau de vitesse pour tester et certifier les trains à grande vitesse dans le Valenciennois, d'après ce que nous a dit Caroline, il y a eu véritablement un plus à utiliser cette fois-ci Google Earth pour déjà permettre aux élèves d'accéder à des documents avec un seul outil et puis ensuite réfléchir de manière autonome sur l'espace et aussi sur les différents enjeux qu'il pouvait y avoir en fonction de la place qu'on occupait dans la société, quoi. Alors pour terminer, j'avoue que j'ai été un peu plus dépourvu parce que on a eu la présentation d'un outil, je pense quand même directement dédié au SVT, peut-être pas inintéressant pour l'histoire-géographie, ou en tout cas peut-être pas à utiliser en tant qu'enseignant, mais enfin moi en tant qu'ancien élève, ça m'a donné envie finalement de me retrouver en classe de première et de m'intéresser à ce type de choses, à savoir un outil qui est destiné à analyser, si j'ai bien compris, vous pourrez me reprendre, notamment Jacques si je me trompe, analyser les différents facteurs qui pouvaient être liés au séisme relocaliser ces séismes et ces facteurs dans l'espace, dans une sorte de globe virtuel, là aussi. Voilà. Donc, des choses assez diverses. La synthèse que j'en fais, c'est pas tellement difficile dans la mise en œuvre et dans l'obtention des données, parce que ça a été une de nos questions quand même dans cet atelier qui est revenue à plusieurs reprises, le problème des données. Alors c'est vrai que le ministère de l'Agriculture apparemment a mis à disposition un certain nombre de données pour l'enseignement agricole. C'est pas toujours le cas, ça risque de le devenir de plus en plus en ce qui nous concerne, mais c'est vrai que plusieurs séquences qui ont été présentées ne demandaient pas forcément énormément de données. Je pense notamment celle que Jean-Luc Delon a présentée avec ses élèves de primaire. La seule donnée de véritablement la seule couche de données qui a été nécessaire, c'est pas l'expérience avec l'école primaire, mais plutôt avec le BTS agricole. La seule couche de données qui a été nécessaire, ça a été d'acheter une photo aérienne, je crois, qu'ils ont utilisée comme point de départ pour qu'ils ont géoréférencé, intégré dans un logiciel gratuit qui est FGIS, quoi. Donc, un certain nombre d'expériences intéressantes, très diverses. Je dirais qu'on ne s'est pas posé autant de questions que peut-être théoriques, on n'a pas eu le recul en tout cas dans l'atelier qu'a pu avoir Eric au départ, donc je n'ai pas tellement d'autres choses à ajouter à moins que certains aient des choses à compléter.
Merci Philippe. Des réactions dans la salle quand même, des choses qui vous ont étonné, que vous avez découvertes? Quelqu'un est venu me voir tout à l'heure, m'a dit mais c'est pas une formation mais on voit plein de choses quand même. Alors, on manipule pas, mais on découvre, on explore.
Ouais. J'ai été très, très surprise de la complexité de ce que des élèves de primaire étaient capables de faire. J'avoue que j'étais dans l'atelier numéro 3. Le travail, la sortie sur le terrain, ils étaient capables de manipuler un PDA. Je ne sais pas si moi, j'y arriverai tout de suite. Ils avaient l'air très à l'aise. Et puis, on leur demande après de créer un fichier KML... c'est ambitieux, quoi, et je suis très agréablement surprise par cette ambition-là, quoi. Voilà.
Est-ce que tes collégiens savaient faire Est-ce que tu as appris à tes collégiens?
Alors, il y a peut-être la personne qui a présenté le. C'est Jean-Luc, c'est ça qu'il a, peut-être, on va le laisser répondre, même si on ne va pas refaire l'atelier.
Oui, on ne va pas refaire l'atelier.
Tu n'as pas demandé à tes collégiens, d'accord.
Oui, c'est. Enfin, il y a plusieurs niveaux dans la manipulation de cet outil Google Earth, qui est quand même relativement simple. Les outils, les principaux outils sont accessibles facilement sur la barre d'outils elle-même. Et donc, on a vu que c'était de manière très intuitive. Les élèves arrivent à faire très facilement des affichages ou de trajets ou surligner un cours d'eau, le canal du Midi ou l'Aude, etc., Ils y arrivent sans souci. La phase d'export, ces fichiers enregistrés sous, il y a une fiche guide, hein, une fiche papier qui les guide et qui leur dit sur quoi il faut cliquer, vers où il faut le faire. Hein. Donc c'est une recette de cuisine, hein, pratiquement, qu'ils ont à suivre. Donc il n'y a pas de grande complexité derrière. Ensuite, lorsqu'il faut assembler les différents KML ou KMZ produits par chaque groupe, ben effectivement, il faut les positionner sur la même machine, les faire apparaître, et puis il y a une technique de glisser-déposer pour les assembler dans un seul fichier, sauvegarder tout ça. Bon, je ne dis pas que tous les élèves du primaire vont y arriver. C'est vrai que comme partout, l'hétérogénéité joue, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui ont spontanément un intérêt, une habileté, voire déjà une culture autour de l'informatique en général, et auquel cas un nouveau logiciel, ils l'appréhendent. C'est vrai que, on va dire, le côté médiatique de Google Earth, entre guillemets, pour aller voir la piscine au fond du jardin, entre guillemets, nous aide aussi, c'est-à-dire qu'ils se familiarisent assez rapidement, assez facilement à l'outil. Au moins dans ses fonctionnalités, ils sont plus étonnés ni émerveillés de voir tout à coup la planète qui arrive jusque devant chez eux, là, magique, de manière magique. Donc ça les bluffe plus. Et donc, ils sont assez à l'aise pour passer. Et après, c'est une petite recette à leur donner. Hein. Il y a 4 fonctionnalités. Voilà. Bon, on a dit que, simplement, pour la partie afficher des photos de la sortie, ça allait être réservé aux adultes. Ils peuvent taper le texte dans la fenêtre description, mon repère, mais après, il y a une petite phrase, pour l'instant, une petite phrase en HTML, IMG, SRC, égal, etc. Bon, ça, on ne leur laisse pas faire. À la limite, ils ont pris la photo. Ils vont retrouver la photo à cet endroit-là. Comment elle y est arrivée, ce n'est pas trop important. C'est effectivement un adulte qui le fera. Voilà.
En tout cas, ce qu'on pouvait dire, peut-être avec Sylvain, au départ, on n'avait pas pensé, quand on a pensé à cette journée, à ouvrir ça à l'enseignement primaire. C'est en recevant les propositions de communication qu'on s'est dit, mais oui, bien sûr, c'est évident. Et du coup, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui se font dans le primaire. D'autres questions ? Ou remarques ?
Petite remarque pour compléter. Donc moi, j'étais surtout dans l'atelier 3 aussi. J'ai apprécié justement que vous ayez fait cette ouverture à l'enseignement primaire et à l'enseignement agricole. On a oublié de dire que c'était absolument étonnant, mais l'intervention du professeur de lycée agricole a été suivie d'une intervention de Jean-Luc Delon aussi, qui concernait un lycée mixte à la fois général et agricole. Et on avait l'impression qu'ils s'étaient totalement concertés avant. Et Jean-Luc m'a dit que ce n'était pas du tout le cas. Donc j'ai trouvé que vous avez fait fort dans la façon dont vous avez mis construit vos ateliers. Et puis pour te répondre, moi j'ai été passionnée par ce que tu as fait dans ta classe de collège sur la boucle ferroviaire. Et si tu dis que c'est difficile pour les enfants d'utiliser les outils qui étaient à leur disposition, moi je trouve remarquable la façon dont tu as géré ton groupe. J'ai été absolument émerveillée par la façon dont tu as géré le jeu de rôle. Et je trouve ça bien plus difficile que l'utilisation des outils comme Google Earth. C'était ça qui était passionnant.
Pour l'organisation, c'était bien sûr voulu. Hein.
Je voulais le faire remarquer.
Merci.
Puis-je revenir, s'il vous plaît, sur le compte-rendu que vous avez fait ce matin de votre enquête, l'utilisation de la géomatique par les professeurs?
Alors oui, ça veut dire qu'on commence la table ronde à ce moment-là. S'il n'y a plus de questions sur les ateliers eux-mêmes, oui, je crois qu'on peut maintenant passer à la deuxième phase. D'accord.
Bon. Je voudrais poser une question. D'abord, est-ce que vous avez demandé l'âge de ceux qui vous répondaient? Et puis, deuxième élément, vous avez dit 800 62. Réponses environ, moitié SVT, moitié histoire-géographie, si j'ai bien compris.
Oui.
Alors, petit calcul mathématique, si je m'en tiens par exemple au nombre de membres de la PSG, 10 000 environ, alors 400 sur 10 000, je ne sais pas ce que ça donne comme pourcentage, mais je ne me rends pas bien compte de ce que ça peut donner par rapport à les utilisateurs de la géomatique, par rapport à l'ensemble des professeurs d'histoire-géographie, puisque c'est ma matière.
Oui. Alors, vous posez une bonne question pertinente. Il est évident que notre échantillon n'est pas représentatif, on l'a bien dit. Alors, par contre, on a beaucoup d'éléments pour corriger quand même un certain nombre de biais. À savoir que nous avons bien sûr la composition par âge. Je peux vous dire, il y a à peu près la moitié du panel qui a moins de 40 ans et l'autre moitié qui a plus de 40 ans. Et ce n'est pas tellement net au niveau. Par contre, on a les fonctions des gens. Un grand nombre sont, une 30% sont par exemple responsables de labo, corrigent des examens, participent par exemple à des expérimentations, déjà fait de la recherche. Donc c'est ça qui nous permet de dire que l'enquête est en partie biaisée. Par contre, par rapport à la représentativité de notre échantillon, c'est vrai qu'on se pose des vraies questions, qu'on a des biais, mais vous savez, je crois que même quand on fait l'observation de classe au plus près de ce qui se passe, l'observateur lui-même n'est jamais neutre. Et je veux dire, les biais, on les a, qu'il s'agisse d'enquêtes déclaratives en ligne, qu'il s'agisse d'observations de classe, qu'il s'agisse... Donc après, effectivement, il faut essayer de corriger. Alors, nous commençons à corriger un certain nombre de biais, à savoir, effectivement, en fonction de type de qui répond. Hein, est-ce que c'est un enseignant? Est-ce que c'est un formateur? Donc, par exemple, on a des gens du UFM, on a quelques chercheurs. On n'a pas tout à fait la parité entre SVT et Histoire Géo. On a par exemple 5 à 6% de gens qui viennent d'une autre discipline, y compris qui sont bivalents. Des gens qui sont en lycée professionnel, qui enseignent le français à l'Histoire Géo, qui enseignent l'anglais à l'Histoire Géo. Donc évidemment, on a un certain nombre de choses à corriger dans cet échantillonnage. Mais si vous voulez, tout en étant conscient de ces biais, de ces problèmes de représentativité, je crois qu'on est un peu sur l'idée d'une enquête d'opinion, quand même, de toute façon. Et on montre des grandes tendances. Et c'est ça qui finalement nous intéresse. On ne va pas pouvoir aller très loin, on en est très conscient, on ne pourra pas aller très loin en termes de conclusion sur les usages réels en classe. Je crois que l'INRP a des outils qui sont bien sûr les enquêtes, mais qui sont l'observation de classe. Si nous avons des enseignants associés, c'est pour aller directement dans les classes et construire avec les enseignants eux-mêmes dans leur classe. Donc là, c'est encore une autre dimension. Donc si vous voulez, cette enquête n'est pas en tant que telle un reflet objectif, hein, bien sûr, on en a bien conscience, mais je crois que c'est important de temps en temps de faire des enquêtes, même si ce ne sont que des sondages d'opinion, on sait ce que vaut les sondages d'opinion en termes, au moment des élections, mais quand même ça donne des grandes tendances, avec des biais dont vous avez raison de signaler. Hein. Vous savez, on s'est posé la question de passer par la voie hiérarchique. Hein. Quand on envoie des questionnaires aux responsables de labo, via les corps d'inspection, via les chefs d'établissement, on a 5 à 10% de retour. Donc on a d'autres problèmes. Donc vous voyez, là les gens arrivaient par internet, ça veut dire qu'ils avaient déjà un ordinateur, ça veut dire qu'ils étaient déjà connectés, ça veut dire beaucoup de choses. On est conscient de tout ça. Mais bon, après tout, qu'est-ce que ça change? Parce que je vais vous dire autre chose hein, de très intéressant dans cette enquête, c'est que les gens, y compris soi-disant un petit peu public averti, nous disent n'importe quoi. Par exemple, on nous dit par exemple qu'on utilise certains logiciels pour faire du traitement, on sait très bien qu'on ne peut pas faire de traitement avec ces logiciels. On nous dit que... C'est-à-dire qu'ils ont vaguement entendu parler de Google Earth et ils font tout avec Google Earth, quoi. Vous voyez, c'est des choses comme ça. C'est pas grave, mais ça nous montre que finalement, ces outils-là arrivent en force, ils arrivent dans le grand public, mais que leur appropriation, leur prise en main et leur utilisation raisonnée en classe, c'est quelque chose dont on est très loin encore. Mais c'est normal. Je veux dire, c'est ce qu'on est en train de voir.
Bon, sur l'enquête, hein, vous aurez tous les détails dans le rapport qu'on va rédiger, qui, je pense, sera diffusé prioritairement d'abord sur notre liste de diffusion et ensuite en ligne sur le site. Peut-être, Guy, je t'avais demandé de si tu pouvais bien prendre la parole pour faire quelques éléments d'animation de cette table ronde. Peut-être pas conclusion tout de suite, mais au moins quelques éléments que tu as pu retenir, toi, de tes visites d'atelier.
Alors des visites d'ateliers, comme vous avez vu, étant donné qu'il y a pas mal d'ateliers parallèles, il était difficile d'avoir une vue synthétique. Heureusement qu'il y avait des fils rouges sur chaque atelier et qui ont pu faire le compte-rendu que vous venez d'avoir à l'instant. Ceci dit, j'ai quand même réussi à suivre à peu près les réponses que j'attendais aux questions que j'ai posées ce matin et à trouver plusieurs des pistes tout à fait encourageante, mais en fait, j'avais pas besoin d'être encouragé. Donc, je vais juste vous faire état des quelques éléments sur lesquels on pourrait continuer à discuter, parce qu'il y en a, je pense, qui mériteraient qu'on continue à creuser. Vous vous rappelez que parmi mes préoccupations de coordonnateur des TIS, voilà, on va dire comme ça, hein, au niveau national, il y a cette opposition que je rencontre très régulièrement de l'écran que les technologies de l'information et de la communication peuvent mettre entre le réel et l'élève. Et dans le contexte du travail d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de voir que dans pratiquement tous les ateliers, la réponse à cette question avait déjà été largement creusée, largement approfondie. Pierre Jauzin le disait tout à l'heure, le terrain au centre, la réalité au centre, l'étude de cas au centre. Autrement dit, de toute façon, on part de quelque chose qui est réel, qui est concret, et ensuite on utilise l'ETIS comme outil pour aller plus loin. Alors, disons que vous voyez, je suis déjà rassuré sur quelque chose, et quand je vois tous les explorations... pas encore complètement facilement généralisable. Hein. Quand on voit les deux grosses batteries que nos collègues de Montpellier sont obligés d'emmener sur le terrain pour avoir un peu d'autonomie, on se dit qu'il y a encore peut-être quelques petits progrès techniques. Mais en attendant, ça marche. Et en attendant, les élèves arrivent à obtenir des résultats. Alors ça, c'est un des premiers constats. Je trouve que le fait que les élèves rentrent dans l'outil, c'est un excellent moyen de se l'approprier. Vous disiez à l'instant que vous étiez fabuleusement impressionné par le potentiel des élèves de l'école. Chaque fois que je réfléchis au B2I, je me dis qu'en fait, vous connaissez tous le B2I, brevet informatique et Internet, et vous connaissez les 5 domaines qui sont maintenant publiés. Il y a un domaine qui ne me pose aucune question, c'est le premier. Le premier domaine, même à l'école. Qui consiste en fait à maîtriser l'environnement informatique, la souris, hein, le mulot, c'était une vieille histoire, maintenant c'était il y a longtemps. Mais en attendant, les élèves arrivent, ils savent faire ça. Par contre, ce qui leur manque, c'est la réflexion sur ce que l'outil permet, la réflexion sur la validité des données, la réflexion sur les sources. Et je pense que c'est une première chose que j'aimerais lancer là dans la table ronde, mais je vais en poser deux ou trois. Est-ce que dans le travail sur les SIG, vous pensez prendre suffisamment en compte la réflexion sur l'origine des données que vous faites travailler à vos élèves? Ça, c'est un premier élément, et je pense que ça mérite d'être creusé. Alors la deuxième chose, c'est qu'on fait donc rentrer les élèves dans l'outil. Et c'est un bon moyen de leur faire comprendre, de sortir de la magie de l'image. Tout à l'heure, c'est quasiment magique, hein, c'est ce que disait Jean-Luc. Premier degré, la magie de Google Earth, super, c'est magique. C'est magique et ça m'embête que ça le reste. Ça m'embêterait que ça le reste. Et ça ne va pas le rester, puisque justement, ils vont agir. Donc, ils ne vont pas agir d'un coup de baguette magique, ils vont agir avec leurs quelques savoir-faire qu'ils ont déjà dans le domaine des TIS. Ça, c'est très très bien. En termes éducatifs, c'est fabuleux. On va vers une action, oui, mais cette action n'a d'intérêt que si l'élève produit. Alors ça aussi, je suis assez rassuré, parce que dans plusieurs ateliers, on s'est posé la question de la sortie imprimante, de comment l'élève allait donner un résultat matériel de tout son travail. Ça, c'est le deuxième point. Est-ce que c'est quelque chose qui pose souci? Est-ce qu'on peut le formaliser, dire clairement que dans un travail sur les SIG, mais un travail en informatique de façon très générale, un travail sur les TIS, quel qu'il soit, à partir du moment où on commence à travailler, ne serait-ce que par exemple, vous voyez, sur un logiciel de simulation en sciences, c'est bien joli, les élèves simulent quelque chose. Et après, qu'est-ce qu'ils produisent? Il faut qu'ils aient construit quelque chose, il faut qu'il y ait une trace. Alors il faut qu'il y ait une trace en termes de produits finis. Un compte-rendu d'excursion, ça permet de savoir si l'élève a compris. Ça permet de savoir s'il a compris, je veux dire, le fond de ce sur quoi on a travaillé, le fond du problème. Donc, vous voyez, on n'est pas là dans enseigner le SIG, mais on est arrivé à quelque chose grâce au SIG, et probablement mieux que si on ne l'avait pas eu. Bon, ça, c'est le premier point. Production. On va pouvoir évaluer la compréhension de la complexité des phénomènes qu'on a essayé de travailler avec les élèves. Mais dans un deuxième temps, est-ce que ce produit final permet de garder une idée du mode de raisonnement de l'élève? Et là aussi, à plusieurs reprises, il a été question de garder la mémoire de ce que l'élève avait fait avec son SIG. Ça, je crois que c'est quelque chose aussi qu'il faut garder en tête. Donc, ça serait, genre, c'est ma troisième question. Quelle trace on va avoir du cheminement de l'élève, de son raisonnement? Et puis, bon, je crois que je m'arrêterai sur une dernière question. On a beaucoup insisté sur le fait qu'aujourd'hui, il y avait déjà au moins deux disciplines. Il y a deux disciplines, il y a au moins quatre niveaux. Là. Enfin, quatre niveaux, bon, disons, on va trop dire trois. Le premier, c'est, si, quatre niveaux, l'enseignement du premier degré, collège, lycée, et puis du post-bac. Donc, on peut dire qu'il y a déjà une couverture large. On a dit souvent, les mêmes outils pourraient servir aux uns et aux autres. Je ne suis pas sûr qu'on soit allé jusqu'au bout d'une réflexion que moi, je trouve pas suffisamment approfondie. De façon générale, je ne dis pas aujourd'hui pour l'atelier, pour le séminaire, hein, c'est de façon générale. C'est la convergence des travaux qui peuvent être menés par plusieurs disciplines autour d'un même cas, une même étude de cas. On a dit l'essayisme. L'essayisme, un outil fabuleux pour les, natures, pour les naturalistes, pour les sciences de la vie et de la terre. Je crois en fait que chacun des exemples qui ont été présentés devrait pouvoir servir à nourrir la réflexion des élèves avec un regard croisé supporté par les différentes disciplines qui peuvent être intéressées par le sujet. Je pense que quand on s'attaque par exemple à quelque chose sur le développement durable, on a parlé de problèmes de littoral par exemple, on a parlé des jeux de rôle, hein, la boucle de grande vitesse. Elle passe à tel endroit, pourquoi elle passe à tel endroit? Peut-être parce qu'il y a des problèmes de sol. C'est pour ça qu'on a également décidé de la faire passer là. Donc, autrement dit, le problème ne peut pas être abordé par une discipline toute seule. Et il ne peut pas être compris dans sa complexité si les élèves n'ont pas croisé les différentes dimensions disciplinaires que chaque professeur, dans sa charge professionnelle, a essayé d'apporter. Alors, moi, je crois que les thèmes de convergence, par exemple, en collège, les thèmes au choix en seconde, un certain nombre de créneaux devraient permettre qu'on apprenne aux élèves la complexité du monde en les aidant à regarder, en s'y mettant à plusieurs enseignants, chacun dans sa matière. Et c'est d'autant plus facile si on a la même base de données, le même outil. L'élève commence avec plusieurs professeurs, il continue avec l'un, il continue avec l'autre, l'ensemble se retrouve au même endroit, on mémorise dans le même fichier, dans le même dossier, petit à petit les choses continuent et elles continuent dans leur complexité. Je crois qu'on a une spécificité, non, c'est pas une spécificité en France, c'est pas spécialement français. Les autres pays ont oublié de faire pareil. De façon artificielle, on a découpé le savoir en disciplines. Bon, et chaque fois qu'on a l'occasion de pouvoir faire travailler les disciplines ensemble, on aide l'élève à remettre du lien dans tout ça. Voilà. Alors, est-ce que vous avez, là, c'était ma dernière question, aux collègues de la table ronde, par exemple, et puis à la salle, est-ce que vous avez le sentiment que, au-delà de se dire, c'est très bien, nous allons rentabiliser l'investissement que représente la mise en place d'un outil et de base de données, parce que plusieurs professeurs, plusieurs disciplines vont pouvoir l'utiliser, donc ça, c'est rentable. Moi, je préférerais qu'on puisse dire, ces mêmes outils, on va pouvoir les utiliser à plusieurs avec les mêmes élèves. Mes chers collègues, voilà quelques questions en vrac.
On va peut-être d'abord faire réagir la salle. Hein, oui. Eric, si tu peux passer le micro.
Moi, il y a deux petites choses que je voudrais dire qui tournent autour de l'intérêt des SIG. Je trouve d'abord que le premier intérêt que j'ai trouvé à travailler avec mes élèves en seconde sur un SIG, c'est que ça désacralise complètement la carte. À partir du moment où les mômes, ils peuvent jouer sur la légende, choisir de faire apparaître telle ou telle couche d'information en fonction du questionnement, où ils peuvent sélectionner différents degrés de zoom, eh bien, la carte, ils se l'approprient totalement et ils en font quelque chose de personnel. Et du coup, on n'a plus quelque chose qui est complètement magique dans un bouquin et immuable. Ils comprennent que la carte, c'est un document qui est construit. Ça, je trouve que c'est vraiment très important. Puis alors, la deuxième chose, c'est que ça rend au module de géographie en seconde son véritable statut, qui est, de mon point de vue, celui d'un moment de pédagogie différenciée. les élèves travaillent à leur rythme, avec l'intervention ou pas du prof qui, à un moment donné, va aider à chaque fois sur un aspect différent. Et puis, à la rigueur, s'ils n'ont pas terminé leur travail et si on prend soin qu'ils puissent accéder à la salle informatique ou à un poste au CDI, dans la mesure où ils sont sur une plateforme à distance, eh bien, ils peuvent, ou chez eux, pourquoi pas, dans la mesure où ils ont un code d'accès, ils peuvent retrouver leur travail et puis finir ce qu'ils n'ont pas pu finir en classe. Alors, c'est les deux intérêts principaux, les deux qualités principales que j'ai relevées, moi, dans l'utilisation du SIG.
Oui, sur le premier point, sur la désacralisation, c'est ce que j'ai essayé de dire rapidement tout à l'heure en parlant de modélisation, parce que la carte n'est jamais qu'un modèle de la réalité qu'on essaye d'appréhender. Et du coup, on donne accès à l'élève au modèle, à la manière dont il est construit, alors qu'habituellement, dans la classe, on a plutôt tendance à cacher les modèles qui sont derrière. Voilà, il y a une question ou une remarque qui arrive ici.
C'est plutôt une remarque. Donc, moi, je rebondis sur deux questions de Guy Menant. La première, elles sont conjuguées. C'est l'interdisciplinarité et la question de la trace. Parce que finalement, c'est lié. L'interdisciplinarité, on a remarqué que la plupart des SIG, sauf peut-être certains SIG en ligne, travaillent par projet. C'est-à-dire qu'un projet, c'est un ensemble de documents sur lesquels on peut avoir des actions. C'est même un ensemble de documents auxquels on peut ajouter des couches. Hein ? Donc ce projet, il n'est pas étiqueté histoire-géographie, il n'est pas étiqueté SVT. C'est un projet, et c'est vrai que si on travaille avec le même logiciel, le projet est transposable géographiquement, s'entend, d'une salle à l'autre, via un réseau ou via une clé USB, d'une discipline à une autre. Et donc moi j'invite, parce que je le fais déjà avec des collègues d'histoire-géographie dans mon établissement, à travailler vraiment sur cette notion de projet qui mélange des couches de géographie humaine et des couches de biogéographie ou de géologie. Hein. Et puis, ce projet, est-ce que ce n'est pas la trace écrite? Je pense que, bon, Guy ne va peut-être pas être d'accord avec moi, mais imprimer quelque chose à la fin d'une séance de SIG, c'est quelque chose de très frustrant. À la rigueur, à la fin de l'année, on va avoir une trace, parce que c'est un travail qui va durer. Et on va être capable de trier dans les informations qu'on a créées. Mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'habitue, nous, à évaluer, à conserver en trace des choses qui sont purement numériques, c'est-à-dire des écrans, des projets qu'on ouvre chez soi pour les contrôler. Les élèves ont enregistré leurs projets personnels et on les ouvre et on les évalue là. Économie d'encre, facilitation des rapports avec l'administration et en particulier les aspects financiers de l'administration, économie de temps. Il faut voir que toutes nos imprimantes sont extrêmement lentes et que si on programme aussi bien en image satellitaire qu'en SIG des impressions, on est dans le sac. Hein, on rentre chez soi à minuit. Bon. Et évaluer sur des produits numériques, pourquoi pas? Il faut le faire accepter des élèves, il faut le faire accepter des parents, il faut le faire accepter. Et je crois qu'il y a une façon de le faire accepter. C'est que ces produits, quand je dis produits, je parle aussi bien des logiciels que des couches d'information, ils soient utilisables à la maison, c'est-à-dire qu'il y ait des licences qui permettent de travailler chez soi, aussi bien sur les documents que sur les logiciels. Je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse très fort à ne pas créer des systèmes fermés qui ne sont valables qu'au lycée, qui ne sont évaluables qu'au lycée. Alors, je sais qu'il y a une disparité des parcs informatiques personnels, mais c'est intéressant de dire à un élève à la fin d'une séance, je sais qu'ils l'ont fait, certains l'ont fait dans mes classes, eh ben, le logiciel existe, tu le télécharges où tu veux. Tu as tout à fait le droit de le travailler. Les couches d'information, je peux te donner ça, je ne peux pas te donner ça. Les couches que tu as faites, parfait, tu les prends. Il n'y a pas de problème, c'est toi qui les as créées. Je crois que c'est très important, parce que c'est la clé de l'appropriation.
Merci François. Simplement, pour appuyer ton propos, un retour d'expérience l'année dernière. On s'est retrouvé dans une expérimentation de Géonautes où les élèves avaient créé leur parcours géologique virtuel avec le logiciel. Et au bout du compte, ce qu'ils nous ont reproché à la fin, c'est de dire « Mais comment je fais maintenant avec ce que j'ai produit? Qu'est-ce que j'en fais ?» Et l'année d'après, on leur a donné le logiciel de manière à ce qu'ils puissent l'emmener chez eux. Alors, il y a une question devant, et puis après, peut-être que Guy veut répondre.
Non, c'était assez bref. C'est simplement pour rebondir sur cette question de la trace écrite de l'élève. Donc, notre collègue l'a souligné qu'effectivement, on pouvait commencer à s'habituer à avoir des traces d'élèves qui sont produites en ligne sur des documents numériques. Il me semble qu'il y a peut-être aussi une autre piste à creuser là-dessus, c'est-à-dire en croisant à la fois, si vous voulez, les perspectives donc des outils en ligne tels GeoWeb Explorer, avec des perspectives qui sont celles des administrateurs de réseau. C'est-à-dire que lorsqu'on a un élève qui va réaliser un scénario d'apprentissage où il est évalué sur une série de questions, un outil simple, qui serait peut-être limité, si vous voulez, mais qui apporterait quelque chose qu'on ne peut pas faire sans cela, consisterait à mesurer, par exemple, les temps que va passer l'élève sur chaque question. Parce que quand je corrige un document écrit qui est fait par un élève en classe, j'ai 5 questions. Je vais prendre un cas très concret. J'ai, admettons, 5 questions. Sur ces 5 questions, j'ai 2 élèves qui vont me rendre une copie à peu près similaire. Bon, une copie qui est à peu près similaire avec, admettons, des questions qui sont relativement mal traitées. Bon, eh bien, le temps que va avoir passé l'élève sur chaque question, je ne peux pas l'évaluer précisément. Et là, avec l'outil informatique, je vais pouvoir, par exemple, sur ce cas précis, distinguer l'élève qui va m'avoir fait 5 mauvaises réponses parce qu'il a... il a passé sur les questions très très rapidement, il a bâclé l'exercice, et distinguer l'élève qui, lui, aura pris laborieusement beaucoup de temps pour chaque question et qui n'aura pas réussi à traiter l'exercice. Et je n'ai pas du tout le même profil élève, et avec un outil comme l'informatique, je vais pouvoir entrer dans cette distinction des profils d'élèves que je ne peux pas faire, si ce n'est par l'observation du comportement de l'élève pendant qu'il est en train de faire sa copie, ce qu'on fait un peu empiriquement, mais qu'on ne fait pas de façon rationnelle. Alors c'est simplement une piste que va nous permettre peut-être, enfin qui sera peut-être développée sur la trace écrite avec l'outil informatique. Elle ne se limite pas, si vous voulez, à une trace écrite qui est un texte, qui peut être un document produit, mais on peut aussi mesurer le parcours que va faire l'élève pendant la réalisation, si vous voulez, des exercices.
Oui.
Pendant que je passe le micro, je vous renvoie sur les travaux de l'équipe Eductis, dont l'une des thématiques, c'est le traçage informatique de l'activité de l'élève. Et on travaille sur les stratégies des élèves. Donc là, en particulier, on va avoir des publications bientôt où vous verrez, à travers des chronogrammes, justement sur des exemples de géomatique.
Un autre groupe travaille là-dessus, sur cette thématique des traces. Voilà. On va l'implémenter sur la géomatique dès qu'on aura des conclusions un peu plus fermes.
Voilà, je voudrais faire un peu l'avocat du diable, là. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est entre convaincus, entre innovateurs et pionniers, mais qu'en est-il des autres, hein ? Je crois que la question a été posée. Alors ce matin, Michel Vozel nous a présenté donc EducGéo avec 3 niveaux, le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 2, déjà pour les gens un peu dégrossis, puis pour les spécialistes, les pionniers, les innovateurs, au niveau 3. Moi, je m'interroge un tout petit peu sur l'articulation entre le niveau 1 et le niveau 2. Il semblerait que ça aille de soi, que les gens qui vont démarrer tout doucement par la visualisation au niveau 1 vont passer tout naturellement au niveau 2. Moi, j'y crois pas du tout, pour une raison bien simple. Tout d'abord, parce que le niveau 1, c'est utiliser la géomatique pour faire de la visualisation. Je trouve que c'est utiliser des gros outils massifs pour faire pas grand-chose, c'est-à-dire de l'illustration. Mais qu'en est-il du raisonnement ? Donc je trouve que c'est un gaspillage de temps et d'énergie pour cela. Et de même, rester à ce niveau-là, c'est aussi mettre les enseignants, ça leur évite de la nécessité ou même l'effort nécessaire de l'innovation, parce que ces outils géomatiques nécessitent à repenser son métier, à repenser sa discipline. Et je crois qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas prêts à faire ce pas-là. Donc là, la résistance se trouve là. Et c'est pour ça que j'estime que le passer de niveau 1 au niveau 2, ça me paraît pas automatique. Et moi, je serais partisan de ne pas créer le niveau 1 du tout. Voilà.
Bon. Bien.
On va arriver au terme, Sylvain, peut-être. Ouais. Il me semblait que Guy, on lui avait posé une question. Je ne sais pas si tu veux reprendre la parole. avant que ton avion ne décolle.
Apparemment, il
y avait une autre question devant. Alexis. Michel Vauzel.
Oui, je répondrai simplement à Yvan Carlo que on n'a pas du tout à l'inspection générale comme à la DT, enfin l'ancienne DT, la sous-direction des technologies, du tout l'idée que le passage du niveau 1 au niveau 2 se fera naturellement et qu'il faudra nécessairement des formations, soit en FOAD, soit en présentiel. Et là-dessus, aussi bien Michel Alignorel, le doyen, que Bruno Mélina, ont le même point de vue que nous. Et le problème, eh bien, de se poser la question de ce n'est pas naturel qu'on va passer automatiquement du niveau 2, du niveau 1 au niveau 2. Déjà, dans le processus que nous avons mis en place, il y a le fait de la visualisation et du croquis de géographie, puis ensuite la proposition dans et du Géo de dire, mais en plus, vous pouvez faire des couches, regardez à quoi ça sert, regardez. Donc, l'économie du niveau 1, c'est absolument pas du tout quelque chose qui est... Là, je suis obligé de me porter tout à fait en tant qu'institution, en porte-à-faux par rapport à ce qui est dit. L'analyse, elle est commune, inspection générale et sous-direction. Et je pense que d'ailleurs, vous pouvez le confirmer.
Oui, mais c'est un petit peu ce que je voulais dire dans un premier temps. C'est vrai que en histoire-géographie, en tout cas, nous avons besoin de ce niveau 1 dans l'état actuel de la préparation de nos enseignants pour faire avancer ce dossier. Mais je pense que notre analyse va plus loin. Pour les élèves aussi, ce niveau 1 apporte un plus qui est indéniable à la compréhension immédiate d'un certain nombre d'éléments et de notions que nous peinons depuis, je vais dire 30 ans, mais c'est bien plus, à finalement expliquer aux élèves et qui sont, par la simple visualisation, quasiment immédiate. Après, le professeur peut revenir, bien entendu, mais ça facilite énormément le travail de nos professeurs. Donc ça, c'est un point avec lequel je suis d'accord avec Michel Vauzel et l'inspection générale, comme il l'a dit, également. Et autrement, je voulais revenir aussi sur ce qu'a dit Guy Ménon à propos des regards croisés. Je crois qu'effectivement, c'est nécessaire, mais il faudrait peut-être... désacraliser un petit peu la chose et dire aux professeurs que ce que l'on attend par ces regards croisés, ce n'est pas une énorme machine. Parce que j'ai entendu un mot qui est un joli mot par ailleurs, qui est le mot de projet. Mais projet est associé à de très grosses machines et qui sont très effrayantes pour le professeur, disons, au quotidien. Et en fait, l'histoire du regard croisé, c'est tout simplement être capable, à un moment donné, d'avoir un minimum de connaissances du programme de l'autre. Bon, je sais que tous les nouveaux programmes qui sont écrits essayent de faire une partie de ce travail. Donc, avoir un minimum de connaissances du programme de l'autre pour pouvoir déterminer avec lui un objet d'étude. Objet d'étude qui ensuite sera pris en main par chacun comme il le veut. Et c'est là que la trace conservée de manière numérique est intéressante, parce que dans le fil de vos programmes, même si beaucoup d'efforts sont faits par les différentes inspections générales, tout n'est pas parfait. Et le professeur d'histoire-géographie peut avoir besoin de parler de cet objet d'étude au mois de février, pendant que son collègue en SVT aura souhaité en parler au mois de novembre, et que le collègue de physique associé, ce sera au mois de juin. Parce que dans la cohérence de son itinéraire, il ne peut pas faire autrement. Mais si on conserve une trace numérique et une logique globale des approches, tout en gardant des problématisations qui soient bien spécifiques à la discipline, et là c'est important, je le dis surtout pour la nôtre, hein, parce que ça me paraît fondamental, à ce moment-là, l'élève retrouve cette unité du savoir que nous cherchons, finalement.
D'accord, merci. Le temps passe. On va laisser à Guy Ménon la conclusion, parce qu'il doit prendre son avion, et il y a des impératifs matériels. Donc, Guy, pour conclure...
Oui, et puis de toute façon, vous aussi, vous avez certainement plein de choses à faire maintenant. Donc, on va aller bref. Une petite réponse par rapport à ça. Bon, d'abord, merci. J'ai des réponses à mes questions. Donc, je suis de ce point de vue-là tout à fait rassuré et enrichi. Cette idée de la collaboration entre les disciplines, j'en suis un fervent convaincu depuis des décennies. Il y a un mot qui a émergé il y a peu, de la réflexion d'ailleurs sur l'éducation à l'environnement, au développement durable, et qui est l'idée de codisciplinarité. Et c'est bien là-dessus qu'on doit se mettre d'accord.
la codisciplinarité, c'est, vous savez, bon, il y a donc cette idée-là, plus que la transdisciplinarité, qui a tendance à diluer les concepts et les idées sur tout le monde. Il y a la codisciplinarité où chaque discipline apporte de façon incisive et experte ce qui fait sa spécialité. Mais apporte à qui ? Et c'est là qu'on va rejoindre quand même l'idée de projet. Apporte à l'élève, évidemment. Vous savez, il y a quelque chose, moi, qui me chagrine depuis une éternité, depuis l'époque où, lointaine, maintenant, où j'ai commencé à être professeur. C'est que je constate, prenons l'élève de terminale, regardez le niveau d'exigence de chacun de nous, professeurs dans sa matière, sur ce malheureux élève de terminale. Essayez d'imaginer que vous soyez dans sa situation et que votre niveau d'exigence personnelle dans votre discipline soit superposé à celui des 12 autres. Alors, dire que l'élève doit faire la synthèse lui-même, c'est vrai, c'est ce qui se passe, c'est ce qui donne un certain nombre d'individus qui sont beaucoup plus géniaux que chacun d'entre nous et qui iront beaucoup, 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 beaucoup plus haut, peut-être, si on peut mettre une hiérarchie dans tout ça. En tout cas, il y a clairement là un enjeu qui est, et c'est d'ailleurs la logique du socle commun, et qui est de faire comprendre à chacun de nous, professeurs, ce que les autres font et dans quelle mesure chacun peut collaborer avec l'autre. Alors c'est ça que je retrouve bien dans l'idée de projet quand même, et qui est que l'on va s'entendre pour déterminer ensemble ce sur quoi nous allons agir chacun dans son domaine, chacun avec sa spécialité. Dans l'idée de projet, il y a l'idée d'identifier des objectifs, d'identifier des stratégies, et quelque part, à terme, d'identifier un produit fini. Maintenant, le passage, la façon dont chacun travaille dedans. À l'époque des thèmes transversaux, on avait inventé le cahier sur lequel chaque élève mettait ce qu'il avait fait dans chacune des matières. Là, maintenant, on a une possibilité d'avoir une trace numérique. Et je suis totalement d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure. Pas besoin de l'imprimer, bien sûr. Mais l'idée d'avoir pensé à l'impression nous amène à nous dire « Mais oui, de toute façon, il faut qu'il reste quelque chose. » Alors, c'est matériel, c'est virtuel. C'est matériel en ceci que c'est sur une trace informatique quelque part et qu'on peut s'y reporter. Voilà. Alors, en tout cas, mes chers collègues, j'espère que cette journée vous aura aussi enrichi que moi. Là, je vous ai dit que j'étais arrivé avec l'idée de partir avec un panier plein. Ça va, je suis content de mon marché. Merci.
Bon, écoutez, moi je remercie d'abord tous les intervenants donc, des ateliers qui ont fait des présentations vraiment très très intéressantes, si j'en juge par les retours qu'on a pu avoir. Bon, je remercie également les membres du comité d'organisation qui se sont mis en quatre pour que tout se passe bien. En particulier Marie-Noël Rouillet, notre secrétaire qui est au fond et qui a dépatouillé toutes nos histoires de papier, d'impression, de tickets. Et on savait bien que si ce n'était pas fait, ça ne marcherait pas. Je remercie également Michel Vozel et Hélène Ormière qui ont eu la gentillesse de venir à cette journée. Et puis je vous donne rendez-vous donc l'année prochaine, ça sera l'année de la Terre. On essaiera de poursuivre ce travail, donc ces journées, en essayant peut-être l'année prochaine d'avoir une dimension européenne, c'est ce qu'on voudrait, dans le groupe, donc d'ouvrir ça à d'autres cultures, d'autres pays, de manière à ce qu'on puisse s'enrichir de l'expérience des autres. Voilà, merci à tous et merci. Donc à bientôt.